à la balado Le Temps de vivre, une série de la Fédération des aînés franco-manitobains sur le thème de la retraite. Ici Monique Lacoste. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme d'action et de compassion. Plus encore, je dirais que son nom rime avec résilience. Originaire de Saint-Pierre-Joly, Cécile Bérard a été cadre à la SFM, alors appelée la Société franco-manitobaine, et la Division scolaire franco-manitobaine, avant de se lancer en affaires à titre de conseillère en planification financière. Des épreuves, elle en a connu, et plus qu'à son tour. Cécile m'a accueillie chez elle pour partager avec nous ses réflexions sur une vie professionnelle et personnelle riche en réalisations, ponctuée de grands revers. J'ai d'abord demandé à Cécile, lorsqu'elle était jeune fille, aurait-elle pu s'imaginer devenir un jour administratrice et femme d'affaires?
Je ne peux pas m'imaginer ça. Par contre, je dois dire que jeune, je me rappelle d'avoir fait un discours, je crois que j'étais en la 9e année, sur la question du fait français. C'est vraiment la culture, pour moi, a toujours été très, très importante. Mon héritage francophone, que ce soit par la cuisine, que ce soit par le chant, la culture, les traditions familiales, pour moi, ça a toujours, toujours été important. Et puis, quand j'étais très occupée, on va dire, peut-être la Société franco-manitobaine à la DSFM et même dans mon entreprise, éventuellement, je dis mon entreprise, notre entreprise de famille, c'était difficile de faire le balan encore. Je suis une personne d'action. Pour moi, il faut que les choses bougent. Renel, mon mari, il me dit souvent, tu sais, Cécile, il dit, tu devrais t'asseoir puis prendre ton temps. Même les jeunes viennent souper, puis maman, tu devrais venir t'asseoir avec toi. Ben oui, mais qui va faire le souper? Qui va préparer ici? Alors, je suis une personne d'action. Alors, je pense que pour moi, la retraite, je suis encore une personne d'action. Hier matin, j'étais dehors dans le jardin à 7h30 pour faire des fleurs parce que j'avais des rendez-vous plus tard dans la journée. Alors, il faut que ça bouge alentour de moi.
Oui. Parlons de cette carrière. À quel moment as-tu fait le virage vers l'administration et le leadership?
Bien, je pense pour moi, le leadership a toujours été une qualité que j'avais. Alors, pour moi, le leadership, c'est aussi de rassembler des personnes autour de toi. Jeune mariée, on a déménagé à Brandon. Alors, pour moi, à ce temps-là, c'était vraiment la famille, ce que je vais appeler peut-être des job-in, des choses que je faisais, disons, dans le domaine des finances. Quand mon plus jeune, Patrick, a commencé l'école à temps plein, c'est là que moi, j'ai décidé que je voulais retourner aux études. Alors là, je suis allée à l'école technique et professionnelle, mes cours en administration des affaires. Et puis, de là, ça m'a vraiment comme lancée dans les affaires. Alors, de là, je suis allée dans une firme comptable pour commencer, ensuite à la Société franco-manitobaine. Et puis, pour moi, c'était vraiment un mélange de faire de la comptabilité que j'aimais beaucoup, alors le domaine des affaires, mais aussi de la culture. Et puis, moi, pour moi, ces années à la SFM, ce que je trouvais vraiment, vraiment important, c'était le besoin, puis je sentais ça dans la communauté, le besoin que la Société franco-manitobaine, à l'époque, se retourne vers les campagnes, parce qu'on identifie souvent la société franco-manitobaine avec les gens de Saint-Boniface. Moi, je suis une fille de campagne, j'entendais souvent « Ah oui, la SFM, c'est pour la gang à Saint-Boniface ». Alors, c'est là qu'on a créé à la SFM à cette époque-là le réseau d'agents communautaires, parce que là, ça donnait des ressources dans les communautés. Et puis, c'est intéressant que, je ne sais pas combien d'années plus tard, il y a encore le réseau d'agents communautaires. L'autre chose, c'est que je trouvais que la SFM était mal connue. On la voyait comme... Comment je vais dire ça, là? C'était comme si là, c'était un groupe d'élite, un groupe revendicateur, un groupe qui ne s'occupait pas de la communauté. Et puis là, je n'en fais pas de blâme à personne. Mm-hmm. Là. Mais c'est qu'on avait besoin d'informer les gens de ce que la SFM faisait. Parce que si on n'avait pas eu la Société franco-manitobaine, on n'aurait peut-être pas des écoles françaises, on n'aurait peut-être pas les droits qu'on a maintenant. Alors, il fallait informer. Alors, de là est venu le centre, le 233 Allô. Alors, c'était là qu'il fallait donner l'information, l'annuaire des services en français. Et puis, dans tout ça, dans ces années-là aussi, on avait toute la question de l'accord du Lac-Meech. Alors, toute l'entente, la réforme constitutionnelle avec la ville de Winnipeg, la province de Manitoba. Alors, très, très, des années très mouvementées qui, aujourd'hui, ont quand même de grands, grands résultats.
Bien, absolument. Qu'est-ce que ça fait de penser à ces projets naissants au moment où vous étiez là et de voir que ça continue aujourd'hui?
Disons que je ne m'arrête pas tout le temps pour penser à ça. Mais parfois, des fois, les gens vont me poser une question, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Puis là, à un moment donné, quand je fais un pas en arrière, puis je me dis, c'est intéressant, ça continue. Je regarde l'Association des municipalités bilingues, la Fédération des aînés. Alors, c'est des choses qui ont débuté dans les... qui existaient, mais qui ont quand même pris une ampleur. Je me rappelle aussi d'un voyage qu'on avait fait à la province du Québec. Une tournée pour sensibiliser les Québécois, c'est tout dans l'accord de l'ACMIC, de sensibiliser toute la question des gens du Québec à ce que vivent les francophones Nord-Québec. Alors, on avait fait une délégation de 10 jours qui avait été télévisée. On avait une équipe de Radio-Canada qui nous suivait de jour en jour. Alors, on avait rencontré des gens de la Beauce, des gens de la ville, des politiciens, des gens d'affaires, des gens dans le domaine de la santé, parce qu'on commençait à vouloir avoir ces services-là ici. Alors, quand je pense à tout ça maintenant, je me dis, bien, c'est un petit bébé qui naissait, là, des idées qui naissaient. Et puis maintenant, on voit quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis, il y a encore du chemin à faire. Par contre, si ces étapes-là n'avaient pas été entreprises à ce temps-là, on serait où aujourd'hui?
Mais c'est très vrai ce que tu viens de dire. Beaucoup des choses dont tu parles, le besoin d'être plus informé, les besoins que les gens à la campagne se sentent interpellés par la SFM, le fait d'être connu au Québec, c'est aussi important aujourd'hui que ça l'a jamais été.
Oui, et puis quand je pense en arrière, puis je me dis, comme c'est quasiment comme un rêve, c'est comme s'il y a tellement de choses pour moi qui se sont passées après ça, que c'est comme si, à un moment donné, c'est comme pas devenu moins important, mais c'est que c'est pas, disons, là, je pense pas à ça tous les jours.
T'sais. Bien, j'en profite de la part de la francophonie pour dire merci, Cécile.
Merci beaucoup.
C'est quand même des morceaux très importants.
Rien.
Vous écoutez la balado Le temps de vivre de la Fédération des aînés franco-manitobains avec notre invitée Cécile Bérard. En 1993, la communauté francophone du Manitoba réalise un rêve de longue date. La Cour suprême du Canada affirme le droit des parents francophones de gérer leurs propres écoles. À ce moment-là, Cécile Bérard est toujours directrice générale de la SFM. L'année suivante, lorsqu'une loi provinciale crée la division scolaire franco-manitobaine, Cécile décide de faire le saut. Elle est recrutée à titre de secrétaire trésorière. Un chapitre houleux de sa vie et de sa carrière commence.
Disons que ça ne faisait pas l'unanimité dans ma famille. Comme mon mari, mes enfants avaient des réservations à ce que je fasse ça. Mais moi, je me disais, c'est un nouveau projet pour la communauté, plein de belles possibilités là-dedans. L'autre chose, au point de vue personnel, je me disais à la SFM, un organisme à but non lucratif, on n'avait pas beaucoup de plans de pension, des choses comme ça. Alors, je me disais, bien, si je fais cette étape-là, et puis je passe un nombre d'années-là, puis je peux contribuer à la communauté. Alors, ça rejoignait encore des choses que je voulais faire, parce que je me crois vraiment créatrice. Alors, pour moi, c'est créer des choses. Et puis, disons que ça n'a pas bien tourné. Il y avait les débuts de la DSFM ont été très, très pénibles. On avait posé une structure par le gouvernement qui était une structure que moi, je dirais aujourd'hui, pour détruire ce qu'on voulait faire avec ça. Alors, il y avait tellement de comités, tellement de conflits entre avec les divisions scolaires cédantes, le gouvernement qui allait un peu du reculon, parce qu'on était allé à la Cour suprême, justement, pour avoir notre division scolaire. Alors, il y avait énormément de conflits. Il y avait des conflits entre la campagne, il y avait des conflits avec l'urbain. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de conflits. Puis, moi, je me dis, je pense que j'ai été victime de tout ça. Alors, le travail qu'il y avait à faire, c'était incroyable. Et puis, quand je dis que c'est un moment peut-être un peu plus noir, il n'y a rien de plus que j'aurais pu faire à la division scolaire pour en fait travail. J'ai commencé, j'étais la première employée officielle de la DSFM. Je suis arrivée au bureau, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de crayon,
c'est
il n'y avait
vraiment
rien, rien,
créé
rien.
À partir de zéro, là.
Ah oui, oui. Et puis, c'était un travail immense. On avait des 21 écoles, si je me rappelle bien. On avait des ententes collectives qu'il fallait avec toutes les divisions scolaires cédantes. Puis négocier avec des divisions scolaires, qui ne voulaient pas négocier avec nous autres parce qu'ils ne voulaient pas qu'on prenne de leurs actifs, disons. Et puis, ce qui est arrivé, je veux dire, évidemment, j'ai été congédiée de la DSFM à un moment donné, moi et le directeur, le surintendant. Je ne pense pas qu'on aurait pu nous demander plus. Puis moi, je dis aujourd'hui, puis je n'ai pas peur de le dire, si on n'avait pas fait ce qu'on avait fait, au mois de septembre, les écoles n'auraient pas ouvert. Je me rappelle, au mois de juillet, on n'avait même pas d'autobus encore. Moi, j'ai commencé en fonction le 1er juillet, officiellement, là, commencé vers la fin juin. Alors, on était devant rien. Et puis, est-ce qu'on a brûlé des ponts? Sans doute. Sans doute. Mais si on n'avait pas brûlé quelques ponts, est-ce qu'on aurait pu faire plus de consultations? Sans doute. Mais les heures n'étaient pas là. On avait un travail à faire. Il fallait ouvrir les portes en septembre.
Ben, avec le recul maintenant, tu es capable de réconcilier tout ça. Mais sur le coup, comment t'as encaissé ça? Parce que non seulement c'est le fait d'avoir été congédié, mais c'est très public.
Oui, c'était très, très difficile pour moi au niveau de ma confiance. Pour moi, ça l'a détruit, tu sais, ma fierté d'être francophone, là. Puis je pense qu'aujourd'hui, même si je suis fière d'être francophone, il y a quand même un nuage là-dessus. Je me dis, là, je ne méritais pas ça. Parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu ne veux pas travailler avec quelqu'un, il y a des façons humaines qu'on peut le faire, OK? Alors, de faire, là, puis de publier, puis d'envoyer des documents à la cachette, à la média, puis tout ça, là, il y a tellement eu de mauvaises intentions. Puis je l'avais dit à un moment donné au président de la commission scolaire, j'avais dit, tu sais, à un moment donné, si vous ne voulez pas travailler avec moi, là, c'est correct, dites-moi-le, puis je vais aller faire d'autres choses, tu sais. Ça, pour moi, ça a été pénible au niveau personnel, au niveau de ma confiance, mais aussi au niveau de dire... Pourquoi brûler des gens qui ont tant donné? Parce que moi, depuis que j'ai 10 ans, je suis fière d'être francophone, que ma culture est importante. Puis pourquoi brûler des gens? On n'a pas tellement de monde qu'on n'a pas besoin de les brûler comme ça. Mmh. Alors, pour moi, ça a été vraiment difficile. J'ai pris vraiment une année de recul. J'ai fait beaucoup de counseling. J'ai vu des personnes qui m'ont aidée. Puis, sans l'appui inconditionnel de Renel et de mes trois garçons à cette époque-là, puis eux autres, ils entendaient toutes sortes de rumeurs que maman avait fait telle chose, elle avait pris de l'argent, elle avait fait... C'était un appui inconditionnel de mon mari et puis de mes trois garçons. Et puis, j'ai pas peur de leur dire souvent comment j'ai apprécié leur appui dans ces années-là. Et puis, je peux les remercier de tout mon cœur parce que sans eux, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Puis même aujourd'hui, ça fait 20 quelques années. Et puis, si j'y pense vraiment, là, je viens larme à l'œil, puis c'est pénible encore.
Les retombées du congédiement de Cécile sont profondes. Non seulement sa confiance en est ébranlée, elle a de la difficulté à se trouver un emploi. Finalement, elle décide d'appuyer son mari, qui travaillait dans le domaine des finances. C'est le début d'une entreprise familiale, Bérard Financial Group. J'ai demandé à Cécile ce qui la motivait dans son nouveau domaine de la planification financière.
Bien, évidemment, pour moi, encore là, il y avait beaucoup de la question de la famille là-dedans, la protection de la famille. Et puis, mon mari avait vécu quand même des choses lui aussi. De ce côté, Renel avait perdu son père quand lui avait 10 ans et dans une famille de 7 enfants. Et puis, c'était quand même, s'il y avait eu des choses en place pour leur aider à sa mère, la vie aurait peut-être été différente, plus facile. Alors, pour moi, ça, c'était un côté important. La chose que moi, je trouvais vraiment difficile quand on a débuté, c'était au niveau de vendre des produits. Et pour moi, vendre des produits, c'était pas dans moi. Alors, moi, ce qui est important, c'est faire de la planification avec les gens. Si vous voulez avoir un produit... Pourquoi voulez avoir le produit? Et puis, à cette époque-là, on ne faisait pas la même planification qu'on fait aujourd'hui avec les gens quand on parle de planification financière. Alors, c'était plutôt plus axé sur des produits. Et alors, pour moi, je me disais, OK, ce produit-là est important, mais voici pourquoi tu en as besoin. Alors, je me rappelle d'avoir fait des premières petites feuilles de travail, puis de dire si t'arrive quelque chose, puis arrive de quoi à ton épouse, comment que la famille va être pris soin. Alors, je faisais quand même mes propres données. Alors, pour moi, ça, c'était vraiment devenu important. La protection de la famille, planifier à long terme.
Évidemment, on ne peut jamais savoir ce qui nous attend. Dans ton cas, encore une fois, un exemple de résilience de Cécile Bérard, c'est que malgré que ton quotidien, c'était de conseiller les autres pour les imprévus, toi et ta famille, vous avez eu à composer avec des imprévus énormes.
Oui. 15 ans après que j'étais dans ce domaine-là, à aider des gens à planifier en cas de maladie grave, en cas de décès pour la retraite, m'arrive à un moment donné un appel de ma sœur qui me dit qu'elle devait subir une chirurgie majeure au cerveau à cause d'anévrisme. Alors moi, pour aider à ma sœur, je l'accompagne à tous ses rendez-vous de médecin. Le médecin me dit « ça pourrait être héréditaire, pourquoi tu ne te fais pas vérifier? » Alors justement, j'ai été me faire vérifier, mais moi, je suis en pleine forme. Je travaille, je suis active, on a bâti une nouvelle maison, on est en train d'aménager le terrain. Alors, pour moi, je suis pas malade, il n'y a rien qui se passe. Alors, on me dit, dans 2 semaines, tu vas avoir les résultats, mais 3 jours plus tard, je reçois un appel. Le médecin veut me voir. Et puis, c'est ça, une grande journée. Je suis occupée, j'irai vous voir à 3 heures. Alors, pour moi, je n'attache pas parce que je suis tellement en pleine forme que je ne peux pas m'imaginer que j'ai quelque chose de mal. Et puis là, la journée, ça mijote un peu dans ma tête. Et puis, j'avais perdu à cette époque-là deux amis à un cancer du cerveau. Alors là, je commence à avoir un peu peur. Là. Puis, alors, je vais voir mon médecin, puis elle me dit, oui, Cécile, elle dit, tu as 3 anévrismes. Puis, étant donné que j'avais passé les étapes avec ma sœur, je savais ce que ça voulait dire. Alors, ça demandait une grosse chirurgie. Et puis, le docteur, il me dit, à ce moment-là, le médecin, il me dit, tu sais, Cécile, tu ne devrais même pas porter tes petits-enfants, c'est dangereux, ceci, ceci. Une semaine avant, je faisais de l'aménagement de terrain ici. Alors, c'était comme, moi, je me dis, là, il y a quelqu'un en haut qui a pris soin de moi. Quelqu'un.
Parce que c'était vivre avec une bombe à retardement, finalement.
Exactement. Puis tout ce que j'avais préparé pour mes clients, là, ça m'arrivait à moi. Puis du jour au lendemain, Cécile, tu ne peux plus retourner au travail. Tu as besoin de cette chirurgie-là. Puis une chirurgie au cerveau, quand on voit à l'intérieur de ton cerveau, c'est une grosse chirurgie. Et puis j'avais fait l'analyse, j'avais fait la recherche pour ma sœur. Alors là, je me disais ce qui m'en venait pour moi. Mais encore là, j'avais quand même bâti une certaine réserve, parce que mon fils, le plus vieux de mes fils, Stéphane, travaillait avec moi à cette époque-là. Alors, lui, il a comme pris la charge. Je me rappelle de rentrer au bureau le lendemain matin, et puis déjà, le directeur régional avait été avisé, les secrétaires avaient été avisés, nos adjoints avaient été avisés que Cécile, là, elle ne travaille plus, là. Elle finit, là. Il faut qu'elle se prenne soin d'elle-même. Là.
Du jour au lendemain.
Alors, la relève était quand même en place. Stéphane a fait un énorme beau travail de prendre la relève, prendre la charge. Et puis, alors, pour moi, là, ça a été une étape très, très difficile. Et puis, j'ai fait ma chirurgie qui a été bien. 2 ans plus tard, on m'apprenait qu'on ne recommandait pas que je retourne travailler.
Deux ans plus tard.
Alors là, j'avais été sur un congé d'invalidité. Et puis, toujours dans l'espoir d'un jour retourner. Et puis, je me rappelle, mon médecin, Dr. Kaufman, m'avait dit, Cécile, si on te permet de retourner travailler, te connaissant, si on te dit d'aller à demi-temps, ça va être plein temps pour toi, parce que plein temps, c'est temps et demi. Alors, c'était clair et net que je ne pouvais pas retourner. Et à cette époque-là, mon deuxième fils, Christian, a rejoint l'entreprise. Et puis, disons qu'il continue avec l'entreprise familiale. 2 ans plus tard aussi, j'apprenais que mon mari avait la même chose. Renel, encore concours du hasard, problème d'oreille, d'ouïe. Il se présente au médecin. Le médecin fait faire un scan. Il revient. Le 17 décembre, on reçoit une lettre dans la malle pour la poste qui disait, vous n'avez pas de tumeur. Par contre, on s'inquiète d'un anévrisme. Alors, c'était comme, c'est pas possible. C'est Cécile qui a les anévrismes. Ils sont trompés. C'est pas possible que moi, j'ai un anévrisme. Mais vous avez un anévrisme. Mais on ne sait pas comment gros. Alors là, ça a été la panique de ce côté-là aussi, parce que mon mari, Renel, m'avait toujours dit, moi, Cécile, si j'ai jamais, là, parce que dans sa famille, il y a quand même, Renel, toute une histoire de cœur, etc., etc. Alors, il s'est dit, si moi, je suis obligée de passer des grosses chirurgies comme ça, je ne veux pas passer ça. Mais moi, je vais passer à travers. Et puis là, lui, il s'est dit, c'est plus juste à propos de moi. C'est à propos de ma femme, de mes enfants, puis de mes petits-enfants. Alors, Renel a dû subir la même chirurgie que moi. Et puis, ça aussi, ça a été difficile. Ça a été long, le stress. Alors, tu sais, c'est comme, moi, ça m'a pris 2 ans. Ensuite, lui, il fasse la même chose. Alors, lui aussi, ça fait comme une couple d'années après ça. Alors,
Et tu es maintenant dans le rôle d'aidante.
différents rôles. Alors, où Renelle avait beaucoup été, beaucoup d'appui pour moi, les enfants avaient été beaucoup d'appui pour moi. Maintenant, je dois passer à l'autre étape. Là, c'est moi qui dois appuyer Renelle. Et puis, Renelle aussi, il y avait quand même d'autres problèmes de santé à cette époque-là. Alors, ça a été une époque de vraiment de réajustement, de prendre la relève au niveau du travail à la maison, des choses à faire. Et puis, mais on doit se dire qu'on est tellement chanceux. Souvent, on s'arrête puis on dit, il y a quelqu'un là. Comme moi j'ai, je dois dire, ma foi m'a beaucoup, beaucoup aidée. À un moment donné, j'avais reçu un prêtre, un de nos amis qui nous m'avait appelé ici, puis il dit, Cécile, il dit, as-tu pensé de demander le sacrement des malades? Puis j'ai dit, non, je n'ai pas pensé, je ne suis pas malade. Alors, pour moi, c'était comme d'accepter ça aussi. Et puis, sur le coup, pour moi, puis je pense que Renelle a fait la même chose aussi, on se revire sur soi-même. Alors, moi, je me disais, je vais garder ça tout en moi-même, là. Je ne vais pas le partager à tout le monde, mes enfants, mes petits-enfants, oui, là, mais je vais le garder. Puis, je n'avais pas réalisé quel impact ça avait sur les autres membres de ma famille. Je me rappelle, 2-3 jours avant ma chirurgie, les enfants étaient venus souper. Puis, ma petite-fille me donne une belle accolade, puis elle pleurait. Puis, j'ai dit, bien, voyons, Carly, pourquoi tu pleures? Bien, son père me répond, il dit, maman, il dit, Carly est inquiète de toi. Oh! Là, c'était comme... C'est quasiment comme si j'ai dû m'asseoir dans ma chaise puis dire... Ouf, c'est pas juste à propos de moi, là. Il y a d'autres gens alentour qui vivent des choses difficiles, qui ont peur, eux autres aussi. Et puis, j'étais allée à l'église un dimanche, et puis mon beau-frère, qui était assis à côté de moi, il me dit, pourquoi ton nom n'est pas dans la liste des malades? Puis j'ai dit, bien, voyons. J'ai dit, parce que je veux pas que tout le monde le sache. Je veux pas que le monde le sache. Mais il dit, t'as pas les prières non plus. Alors là, tu sais, c'est comme si à voir que... Il ne faut pas se refermer. Tu sais, si moi, j'ai un conseil à faire, il ne faut pas se refermer quand on vit des choses difficiles sur soi-même. Tu sais, il faut partager avec des gens qui sont proches. Et puis, je me rappelle, en sortant de l'église ce dimanche-là, j'avais dit au curé de la paroisse, à cette époque-là, c'était à l'abbé Toupin, j'ai dit, oui, c'est correct, tu peux mettre mon nom là, dans les malades. Puis, c'est comme si j'avais senti un poids qui s'était enlevé de mes épaules. Même chose quand j'avais dit à ma petite-fille, là, voyons Calais, là, ma mère, elle va être correcte, là. C'était comme un poids qui était enlevé, là, de voir qu'il y avait d'autres gens aussi. C'était plus juste à propos de Cécile et ce qu'elle devait passer à travers. Parce que je le savais, j'avais besoin d'une chirurgie. C'était pas juste ça, c'est qu'il y a des gens, tu as un impact sur les gens qui sont proches de toi. Et puis, je me rappelle que le soir avant ma chirurgie, on pleure facilement dans ma famille, OK? Alors, mon père pleurait, mes frères, mes sœurs. Alors, on a souvent larme à l'œil, alors on est émotionnel. Et puis, j'avais dit à Carly, à cette époque-là, bien voyons, tu as du curé dans le corps, là, parce que j'ai dit, tu sais, tu pleures. Mais, donc, elle avait raison de pleurer, elle était inquiète. Et puis, son père m'appelle le soir avant ma chirurgie, puis lui aussi pleurait. Puis, j'ai dit, bien voyons, Christian, qu'est-ce qu'il y a de mal? As-tu des problèmes avec ton épouse, tes enfants? Il dit, maman. Alors là, encore là, c'était comme, OK, Christian, là, voici là, ce qu'on va faire. Tu sais, comme, maman va être correcte, mais ce soir, j'ai de mes sœurs qui organisent une soirée de prière. Pourquoi tu ne vas pas les voir? Ça va t'aider. Puis, il est allé. Alors, tu sais, t'es le seul jeune avec toutes mes sœurs et puis des amis. Et puis, ils ont prié pour moi. Alors, pour moi, ça a été vraiment, vraiment important, là. Et puis, à tout ça, ce que je réalise aussi, c'est que quand on vit des choses difficiles, pas différent quand j'ai vécu des choses difficiles par rapport à la DSFM. Quand tu as des gens qui t'entourent, des gens qui t'aiment, partageons-les avec eux autres, parce qu'eux autres aussi vivent des choses. Et puis, ensemble, ça nous met ça juste plus fort. Puis, je pense qu'il faut avoir confiance aussi, puis faire confiance dans le Père. Moi, à ma chirurgie, je dois dire que j'ai senti la présence de mon Père comme jamais avant.
Mais ça me frappe que, bon, on a parlé de toutes ces réalisations, du fait que tu es femme d'action, mais en même temps, tu as dû démontrer une vulnérabilité et faire face à ta vulnérabilité. Ça fait partie, c'est l'autre côté de la médaille de la force, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, puis là, ça m'amène à un autre, on va amener à un autre sujet, mais c'est ça, c'est que même si tu te sens forte, tu te sens créatrice, tu peux faire bien des choses, à des moments, il y a des choses qui t'arrivent où tu es vulnérable. Puis quand tu es vulnérable, il ne faut pas se cacher. Il faut se fier sur les personnes qui sont proches de nous. Alors, n'allez pas avoir peur. Tu sais, de nos jours, on parle souvent des maladies, des conditions mentales, de dépression, des choses comme ça. Et puis, c'est des gens qui sont vulnérables. Et puis, on peut passer à travers de ça. Mais ça prend des gens pour t'appuyer. Puis dans le passé, on cachait ces choses-là. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire, à ce moment ici, là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, qui va m'appuyer, qui va me comprendre. Et puis c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Je connais des gens, à un moment donné, qui ont passé des choses plus difficiles, des choses difficiles dans leur vie, qui ne vont pas chercher cette aide-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher l'aide. Ça l'a éveillé pour moi une grande compassion pour les personnes. Puis ça m'amène, je dis, à un moment donné, j'avais reçu un appel ici pour siéger sur un panel provincial pour les gens vulnérables. Mm. Puis je me suis dit, ouais, je pense que je suis capable de faire ça. Alors pour moi, aujourd'hui, même si je suis à la retraite, là, je siège sur un panel qui, c'est pour nommer des personnes qui vont remplacer quand une personne vulnérable qui ne peut pas prendre soin de ses soins de santé, ses soins financiers, etc. Alors, à ce moment-là, on doit faire des recommandations. Alors, je participe à ça. Puis ça l'a amené pour moi une grande... Je pense qu'aujourd'hui, je me dis que je suis une personne de compassion. Je peux comprendre des gens parce que j'ai vécu des choses difficiles.
Vous êtes toujours à l'écoute de la balado de la Fédération des aînés franco-manitobains, intitulé « Le temps de vivre ». Mon invitée est Cécile Bérard, de Grande-Pointe, qui n'a pas laissé ses nombreuses épreuves brimer sa compassion et sa générosité. Au contraire, elle cherche des occasions de combiner compassion et créativité. Cécile nous en donne un exemple.
C'est qu'à un moment donné, on se préparait comme famille de faire un voyage. Et puis, là, à un moment donné, il y avait l'arrivée des Syriens au Manitoba. Puis, j'avais vu dans le papier un petit enfant, un petit garçon de 2 ans qui était noyé sur la plage, puis qui avait été balayé par les vagues sur la plage.
C'est une photo qui a fait le tour du monde.
Il a fait le tour du monde, puis moi, cette photo-là, ça me rappelait là, même, ça n'a pas de bon sens que des enfants vivent ça. Alors, pour moi, là, ça a éveillé quelque chose dans moi. Et puis, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ces gens-là? Et puis, tu sais, il y avait quand même des gens qui étaient pour, puis contre toute cette arrivée des Syriens ici, alors. Mais moi, c'était la compassion envers les enfants. Alors, j'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai dit ça à Renel. Puis Renel, il a toujours été beaucoup d'appui pour moi. Puis, alors, il dit, prends de l'argent, puis va acheter du matériel, puis fais-en 25 couvertes, si tu veux, puis tu les donneras. Alors, pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'ai appelé ma sœur, parce que je suis chanceuse, j'ai 6 sœurs. Alors, j'ai appelé une de mes sœurs, puis j'ai dit, veux-tu m'aider, on va faire 25 couvertes. Mais 25, c'est quand même beaucoup. À 2. Alors là, j'ai appelé une couple de mes amis. Mais j'avais un peu peur de commencer parce que tu commences quelque chose comme ça, puis tu ne sais jamais où ça va aboutir. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Alors là, à un moment donné, je commence ça, une couple de personnes le savent. Je reçois une carte de Noël, un chèque de 200 $ dedans pour ton projet de couverture. Alors là, ça commence à faire de l'ampleur. Là. Alors, on a quand même fait, à date, là, 1500 couvertures. Et puis, ça a dépassé toutes nos attentes. Évidemment, on a donné aux Syriens, on a donné à des nouveaux arrivés réfugiés. On a donné dans des paniers de Noël à des enfants malades. L'année dernière, on a fait avec les communautés autochtones, les Premières Nations. Tu sais, ça a des retombées qu'on ne s'attend pas quand on fait des projets comme ça. Au niveau des Premières Nations, la religieuse qui s'en occupait, elle me dit, elle est venue nous rencontrer pour nous remercier. Et puis, elle nous dit, elle fait, on parle de réconciliation. Elle dit, ils n'ont pas demandé rien. Alors, elle les a donnés comme des cadeaux à des enfants baptisés ou des enfants qu'elle visitait dans des situations très, très précaires. Là, alors, alors, elle nous expliquait ça. Mais aussi, une autre retombée que ça a fait au niveau des gens dans notre communauté qui travaillent ensemble, ça a créé des amitiés. Ça l'a aussi permis à des gens qui sont à la maison seuls, qui se disent, je veux contribuer, mais je ne sais pas quoi faire, qui sont venus nous aider. Alors, ça a beaucoup de retombées que des fois, on lance des projets, puis on ne sait pas où ça va aller. Puis, je sais que là encore, j'en ai pas fait depuis l'automne passé, là. Et puis, il y a des gens qui me demandent, Cécile, tu vas-tu en faire encore? Mais là, j'ai un petit peu trop de pain sur la planche, comme ça, là, il faut que je fasse des priorités.
Imagines-tu un jour où la retraite, pour toi, va vouloir dire être bien assise dans un fauteuil à lire un livre?
Pour moi, non, je ne pense pas que je vais juste faire ça. Je pense que je vais toujours être active. J'aime beaucoup ici où qu'on est. On a quand même un assez grand terrain qui est assez aménagé, puis il y a beaucoup de fleurs. Puis pour moi, je trouve une paix. Un peu dans les moments même quand je travaillais, comme à l'époque où j'étais à la SFM, où on était très mouvementé. Alors, j'aime me retrouver dans la nature. On avait un chalet à cette époque-là, puis quand je m'en allais au chalet, c'était comme... Je pouvais me retrouver dans la nature. Ici, la même chose sur le terrain. Je vais aller travailler dans les fleurs. Alors, pour moi, c'est là que je trouve une paix dans la création de Dieu. Puis, je suis juste en paix quand je me retrouve là.
Quel conseil donnerais-tu aux gens à l'écoute qui sont peut-être pas encore à la retraite, mais qui commencent à y songer un petit peu?
Je pense que c'est important de faire une bonne planification, puis de créer à l'intérieur de sa planification des options en cas où telle chose arrive. Mais il ne faut pas être toujours juste pris par ça. Je pense qu'il faut aussi se trouver des choses qu'on aime faire en dehors, de trouver des loisirs. J'aime beaucoup faire la pêche. J'aime beaucoup me retrouver encore sur le lac avec une canne à pêche, avec Renelle. On est juste bien. Il faut arriver à trouver une paix intérieure pour moi à la retraite. Et puis, je pense que c'est difficile de laisser aller des choses, de faire confiance, de déléguer. Mais quand on délègue aussi la responsabilité. Il y a des enfants qui nous disent, pourquoi vous avez tout ce terrain-là? C'est tellement d'ouvrage de ça. Mais pour moi, je trouve la paix là-dedans. Alors, chacun pour soi.
Exactement. Je veux te poser quelques questions en rafale. Alors, des petites questions rapides avec une réponse rapide. La première question, routine ou spontanéité?
Spontanéité.
Lève-tôt ou oiseau de nuit?
Lève-tôt.
Paysage connu ou nouveaux horizons?
Paysage connu, je pense.
La retraite, est-ce une destination ou un voyage?
C'est un voyage.
L'aspect le plus plaisant de la retraite, c'est?
Pour moi, c'est de trouver de la paix intérieure puis être bien où est-ce qu'on est.
Son aspect le plus difficile?
Trouver le balan.
Et finalement, si tu devais résumer tout ça, la retraite, c'est?
C'est une paix, c'est une étape, c'est un voyage.
Cécile Bérard, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments intimes avec nous aujourd'hui.
Bienvenue Monique, à la prochaine.
Vous venez d'écouter un épisode de la balado « Le temps de vivre » avec Cécile Bérard. Cette série est produite par la Fédération des aînés franco-manitobains et a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada. Je vous laisse avec ce vieux dicton qui me fait beaucoup penser à Cécile Bérard. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que nous en faisons. Ici Monique Lacoste. Merci d'avoir été là. À la prochaine.